Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Elisabeth.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Les Républicains ont tranché cet après-midi, ils veulent rester indépendants vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Enfin ça, c'est la version officielle.
On en parle avec Charlotte Chaffanjon, Dominique Albertini de Libération. Il publie les coulisses d'une victoire, les secrets d'une campagne. À paraître jeudi aux éditions de l'Archipel, c'est un livre dont ils ont mis le point final dimanche, juste après le résultat de cette élection présidentielle. Mohamed, votre story ce soir.
52 enfants ont été contaminés après avoir mangé une pizza Buitoni. Deux enfants sont morts. Vendredi, la marque a envoyé à certains consommateurs un mail pour s'excuser avec un bon d'achat de 20 euros. Pour ce désagrément, une maman d'une victime témoigne ce soir dans cet avis.
Patrick, votre édito.
Le ministre russe Lavrov affirme qu'il y a un risque réel de troisième guerre mondiale pendant que les Occidentaux amplifient leur aide militaire à l'Ukraine.
Menace sérieuse ou posture? On pose la question à Nicolas Tenzer, directeur de la publication du bimensuel Desk Russie, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde qui s'est offert Twitter pour 44 milliards de dollars. Est-ce que c'est un nouveau joujou ou est-ce qu'il y a une visée politique? On en parle dans le 5 sur 5 tout à l'heure.
Et Pierre, dans votre œil.
Vincent Lindon a accepté gratuitement d'être président du 75e Festival de Cannes. Il sera président du jury, avec lui 8 jurés, 4 femmes, 4 hommes. Je vous les présente tout à l'heure.
C'est l'œil du président Pierre Lescure. Ce soir, juste après 20h, on accueillera aussi nos invités du dîner. Parmi eux, Marina Carrard-Danco, c'est notre médecin préféré. Tous les jours, son cabinet est ouvert sur France 5 dans le magazine de la santé à 13h40. Elle nous dira qu'il faut en finir avec les troubles du sommeil, avec les troubles digestifs et en finir avec le sucre. Ça tombe bien, t'as pas de dessert au menu ce soir de notre chef Bastien de Changy. Bonsoir cher Bastien.
Bonsoir Babette.
Chef du restaurant Cambrousse au château de la Bûcherie. Alors votre truc, c'est à chaque fois de proposer des produits de saison et récolter à moins de 5 km de votre restaurant. Et c'est le cas ce soir pour tout ce qu'on aura dans l'assiette.
Exactement, ce soir de saison asperges, œufs. Donc on va réaliser une petite poêlée d'asperges et on va travailler l'œuf en différentes textures. On va réaliser une mayonnaise avec les blancs d'œufs pour en faire une mousseline pour ne rien jeter. Un jaune d'œuf confit avec une petite salade d'herbe fraîcheur. Plein de saison, plein de goût.
Merci chef, à tout à l'heure. On commence tout de suite avec l'édito de Patrick Cohen. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donc mis en garde hier contre un risque réel de Troisième Guerre mondiale et de conflit nucléaire. Il est sérieux ?
Il faut prendre au sérieux tout ce qui se dit à Moscou. D'abord, depuis que l'Ukraine est envahie, les Occidentaux lui envoient des armes et les Russes agitent la menace du feu nucléaire. Depuis 10 jours, l'Ukraine est armée de plus en plus lourdement et la menace russe devient encore plus explicite, la confrontation de plus en plus ouverte. Joe Biden avait donné le signal il y a 10 jours avec l'envoi de nouveaux matériels, drones et pièces d'artillerie lourdes. Depuis le début de l'invasion, les Américains ont fourni aux Ukrainiens 3,5 milliards de dollars d'aide militaire. 3,5 milliards, c'est considérable. Aujourd'hui, une conférence réunissant 40 pays alliés de Kiev avait lieu sur la base aérienne allemande de Ramstein. C'est tout près de la frontière française, à une 60aine de kilomètres de Forbach. Et là, tournant symbolique, l'Allemagne qui refusait de s'engager dans cette course aux armements, qui n'en avait pas les moyens non plus, qui disait ne pas vouloir provoquer Moscou. Olaf Scholz, vendredi dernier encore au Spiegel, nous devons tout faire pour éviter une guerre atomique. Eh bien, l'Allemagne vient d'annoncer par la voix de sa ministre de la Défense l'envoi de blindés antiaériens.
Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern vom Boden aus.
Des chars Guépard ou Guépart. Alors, ce n'est pas la nouvelle collection. Hein. Les Guépards ne sont plus fabriqués depuis 30 ans et plus en service dans la Bundeswehr depuis 5 ans. Ils prenaient la rouille dans des hangars. Mais l'Allemagne franchit un pas auquel la France se refuse jusqu'ici. À la question « Faut-il envoyer des chars à l'Ukraine ?», Emmanuel Macron répondait vendredi dernier dans Ouest-France « On doit aider au maximum les Ukrainiens, mais on doit veiller à ne jamais être co-belligérant. »
Que représente l'aide militaire de la France ?
100 millions d'euros, une aide qui devrait être doublée dans les semaines à venir, avec pour l'instant des missiles anti-char Milan et des canons César montés sur camion. L'armée française en dispose de 76. Elle va en prélever une douzaine sur son stock pour les envoyer en Ukraine. Et elle vient de commencer à former une quarantaine de soldats ukrainiens sur le sol français, à leur maniement.
C'est cet effort militaire occidental qui fait monter la tension avec Moscou.
Oui, c'est clair. Il y a une semaine, l'armée russe annonçait le premier tir d'essai réussi du Sarmat, le plus gros missile intercontinental jamais conçu, capable d'embarquer 12 têtes nucléaires et de réduire en poussière à l'autre bout du monde des territoires gigantesques. Une arme unique qui fera réfléchir à deux fois ce qui menace notre pays, avait commenté à la télévision Vladimir Poutine. Et hier, au lendemain de la visite à Kiev de deux membres du gouvernement américain, dont Anthony Blinken, long entretien du ministre Lavrov, donc, à la télévision russe. Question, y a-t-il un risque de Troisième Guerre mondiale ?
Серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать. НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, такую через прокси, и вооружает этого прокси. Ну, на войне как на войне.
C'est la guerre, dit Lavrov. Nous sommes déjà en guerre avec les Occidentaux, c'est le fond de son propos, même s'il n'y a pas de confrontation directe.
Quelle est la limite de l'engagement occidental ?
Alors, il y a une ligne rouge fixée depuis des mois par les Américains et Joe Biden. Pas de soldats sur le sol ukrainien, mais les autres lignes ne cessent de reculer. Vous vous souvenez qu'au début, on disait pas d'armes offensives, simplement des armes défensives. Voilà, on en a envoyé aujourd'hui des chars et d'autres matériels, évidemment, très offensifs pour les Ukrainiens. Et pendant ce temps-là, Moscou répète attention à ne pas aller trop loin. C'est le sens du message de Lavrov. Mais l'objectif de Washington est maintenant affiché clairement depuis quelques jours, faire gagner les Ukrainiens et faire perdre Poutine. Lloyd Austin, le chef du Pentagone, hier en Pologne après sa visite à Kiev.
They believe that we can win. We believe that we can win. They can win if they have the right equipment, the right support. And we're going to do everything we can, continue to do everything we can to ensure that that gets done.
Voilà, Lloyd Austin qui a aussi déclaré vouloir affaiblir la Russie pour qu'elle ne puisse pas recommencer, parce que les Américains sont convaincus que Poutine n'a pas l'intention ou n'avait pas l'intention de s'arrêter à l'Ukraine. En somme, il s'agit de faire la guerre ou d'aider les Ukrainiens à faire la guerre pour ne pas qu'il y en ait d'autres.
Nicolas Tenzer, il faut se fixer comme objectif de faire gagner l'Ukraine, quitte à prendre le risque d'être considéré comme co-belligérant.
Oui. Je pense que ça doit être absolument notre objectif, à nous, pays libres, occidentaux, de faire que l'Ukraine gagne. Il faut savoir ce que ça signifie aussi, que l'Ukraine gagne. Ça veut dire concrètement libérer l'ensemble du territoire du Donbass. Parce que l'on sait très bien que si l'on a des troupes russes qui restent dans le Donbass, ça va vouloir dire plus d'exécutions sommaires, plus de massacres, plus de persécutions. Et ça, c'est totalement inacceptable. Libérer aussi, bien sûr, dans un second temps, la Crimée, qui est toujours annexée illégalement, depuis 2014, on le sait, par les forces russes.
– Très ambitieux quand même. Oui.
– Mais je pense que c'est effectivement, je veux dire, il faut à un certain moment se dire, effectivement, si l'on prend au sérieux la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce que les Occidentaux ont toujours dit, eh bien, je pense qu'il faut effectivement se fixer cet objectif-là.
Mais vous pouvez imaginer comment réagirait un Poutine défait et humilié ?
Alors, encore une fois, moi, je ne crois pas beaucoup à la thèse de l'humiliation. L'humiliation, c'est quand même lui qui a déclenché la guerre. C'est aussi le discours...
Défait, alors,
voilà.
Simplement
défait. Défait. Mais encore une fois, est-ce que sinon, nous acceptons, nous avons perdu la guerre depuis 22 ans, plutôt nous avons laissé Poutine gagner toutes ces guerres depuis 22 ans, en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, avec les crimes de guerre massifs que l'on sait. Est-ce que l'on va continuer sur cette voie ? Le risque nucléaire, bien sûr, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est évident, mais il faut savoir que les menaces de ce type, elles sont proférées depuis 2014, au moins, par le régime russe, par soit Poutine, soit Lavrov, soit d'autres généraux, soit d'autres propagandistes. Donc on a toujours, effectivement...
Parce elles ne sont pas plus sérieuses, cette fois-ci.
C'est très difficile à le dire. On est effectivement dans une sorte de guerre psychologique. Hein, pour moi, ça me fait penser d'une certaine manière, bah, toute proportion gardée, vous savez, au limier de Mankiewicz, hein, vous avez deux personnes qui s'affrontent. C'est un peu cette image-là que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a cette pression psychologique, avec toujours l'espoir de Poutine que finalement, il y aura un moment... où les Occidentaux céderont. D'ailleurs, ce qu'on peut aussi prévoir dans les semaines, mois à venir, là, on a une attaque intensive, c'est-à-dire qu'on a un tapis de bombes qui est jeté sur l'Ukraine avec des dizaines de milliers de morts. C'est comme ça aussi la réalité. Il ne faut jamais l'oublier, de civils, etc. Mariupol, on l'a vu. Mais l'idée, c'est peut-être que dans trois semaines ou un mois, il va peut-être lâcher un peu la pression. Et puis, il espère, à partir de là, de trouver une sorte de chemin de négociation. Il espère que les Occidentaux, qui ont montré un front
vont tomber dans ce piège-là.
Ce piège-là.
De la désescalade.
De la désescalade. Promise. Voilà, des zones de déconfliction, comme on disait en Syrie. Je pense que l'exemple syrien est, de ce point de vue-là, extrêmement intéressant, parce que c'est ce qu'il a fait en Syrie, et je pense qu'il pourrait parfaitement recommencer à jouer de cette tactique en Ukraine. C'est pour ça que nous devons être parfaitement clairs. Il faut, bien sûr, maintenir les sanctions, les renforcer, bien sûr, considérablement, et continuer, de manière beaucoup plus massive qu'aujourd'hui, à livrer des armes à l'Ukraine.
Justement, l'effort militaire consenti, il est à la hauteur et la France devra y participer ? Pardon.
Oui, il est bien sûr. Enfin, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait à la hauteur. Il progresse, c'est une très bonne chose. Voir effectivement le tournant stratégique de l'Allemagne, c'est très bien. Je pense que la France fait déjà beaucoup, mais devrait faire encore plus, manifestement. Mais bien évidemment, le facteur décisif, ce sont quand même les États-Unis. Parce que tout simplement, ce sont les États-Unis qui disposent de l'arsenal conséquent aujourd'hui, beaucoup plus que les Français, les Britanniques ou les Allemands, a fortiori, ou les Polonais, les Baltes, etc.
Les Britanniques ont fait deux fois plus que la France. Hein.
Voilà, mais voilà, non, mais l'effort britannique est quand même considérable. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aller vraiment plus loin si l'on se fixe cet objectif. Et je pense que cet objectif, il doit être aussi, de notre part, nous, à nous, Européens, parfaitement déclaré.
Et parfaitement assumé par la France. Il y a une frilosité de la France que vous comprenez ?
Moi, je ne comprends pas cette frilosité. On pouvait la comprendre pendant la campagne électorale pour des tas de raisons, mais je ne comprends pas pourquoi il y avoir cette frilosité, tout simplement parce qu'il faut bien savoir qu'il n'y a pas de voie aujourd'hui de négociation possible avec M. Poutine. Est-ce qu'on va accepter de lui laisser une partie du Donbass avec les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure ? C'est complètement inacceptable. Nous avons au contraire en face de nous, je dirais, un État ukrainien. Qui est un État ukrainien extraordinairement fort. C'est quelque chose que j'ai encore constaté.
Qui vous a frappé parce que vous revenez d'Ukraine.
Oui, j'y étais effectivement quelques jours la semaine dernière. C'est que vous avez une force, un courage de ces personnes qui est absolument remarquable, qui se projettent dans l'avenir aussi. C'est ça qui m'a frappé. Ce ne sont pas des gens qui sont en train de se plaindre. Ils sont là et ils disent, mais voilà comment nous allons bâtir cet avenir européen.
Une Ukraine européenne, ils pensent à cet avenir-là.
Oui, et je pense que non seulement nous le devons politiquement et moralement, mais je pense que l'Ukraine, quand je vois la manière dont l'État fonctionne, les collectivités qui ont un rôle essentiel, notamment dans l'aide humanitaire, dans les soins quotidiens, dans la logistique, fonctionnent, c'est absolument extraordinaire. Je trouve que l'Ukraine pourrait être d'une certaine manière un modèle pour l'Europe, un vrai modèle. C'est-à-dire que pour l'Europe, si l'Ukraine devient un jour membre de l'Union européenne, il faut accélérer sa candidature, mais l'intégration prendra du temps, ça tout le monde le sait. Mais je pense que ce sera un exemple. Quand on voit même aussi en matière de contre-attaque cyber, par exemple, l'Ukraine est un modèle. Vous avez des services publics qui montent, vous avez qui marchent bien et qui sont totalement coordonnés entre l'État et les collectivités territoriales. J'ai discuté là-bas, notamment, avec le maire de Kiev, avec le maire de Lviv, avec le maire de la ville martyrisée de Boutcha, de Borodyanka aussi. Voilà, et je vois des gens qui sont là avec aussi des volontaires, des associations, et qui veulent reconstruire ce pays, qui ont cette idée aussi. D'ailleurs, il y a eu un moment où on a eu une cérémonie extrêmement émouvante avec le maire de Boutcha, qui on avait discuté avant. Nous avons planté des arbres avec des enfants. Et le maire de Boutcha a dit deux choses qui me semblent essentielles. Il a dit d'abord, il faudra transmettre la mémoire de ces crimes, de génération en génération. Et il faudra aussi que ces enfants prennent la relève et qu'on leur assure un avenir européen. Parce que c'est vraiment comme ça que l'avenir de l'Ukraine sera garanti. Ce sera au sein de l'Europe. Et ils disent, voilà, maintenant nous allons affronter ce maire d'ailleurs de Boutcha qui a failli, je dirais, mourir. Heureusement, les Russes se sont trompés sur son nom et donc finalement ils l'ont relâché. Puis après, il a pu se cacher, les habitants lui ont indiqué où aller, etc. Mais il a cet espoir devant lui. Mais c'est un espoir mérité, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement nous qui donnons une assistance, ce n'est pas une sorte de cadeau que nous faisons à l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine a vraiment montré la voie. Et je pense que même sur l'organisation des services publics, l'organisation de la logistique, l'organisation des services sanitaires, on a un exemple à tirer de ce peuple qui se réveillera beaucoup plus fort demain. Et imaginez aujourd'hui qu'on puisse abandonner ce peuple ou qu'on puisse dire, ouais, voilà, on va avoir pendant quelques années, jusqu'en 2023, 2024, une Ukraine divisée, attaquée. Une Ukraine qui ne pourra pas, parce qu'elle sera toujours attaquée, que ses services ne pourront pas totalement fonctionner, qu'il n'y aura pas d'aéroport, que les contacts avec l'Union européenne seront compliqués, qui serait effectivement conduite à rester un peu dans l'arrière-cour de la Russie. Je pense que ce n'est pas envisageable. On ne peut pas accepter justement ces pressions qui empêcheraient le peuple ukrainien qui souhaite aller vers l'Europe. On ne peut pas l'empêcher d'avoir cet avenir et d'y rêver et de le construire concrètement.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était à Moscou aujourd'hui. Il a plaidé pour un cessez-le-feu après avoir été reçu par Vladimir Poutine. On ne peut pas imaginer qu'il a infléchi la position de Poutine cet après-midi, évidemment. Enfin, il ne pouvait pas faire autrement que plaider pour un cessez-le-feu. Il a tenu ensuite une conférence de presse avec le fameux ministre Lavrov des Affaires étrangères. Ils ont évoqué les couloirs humanitaires et auparavant, le secrétaire général de l'ONU a évoqué l'enquête internationale sur les crimes de guerre.
I'm concerned about the repeated reports of violations of international humanitarian and human rights law and possible war crimes, and they require independent investigation for effective accountability. And we urgently need humanitarian corridors that are truly safe and effective.
Эти цели заключаются прежде всего в защите мирного населения, и здесь мы заинтересованы сотрудничать с коллегами из ООН.
Comment croire une fois de plus avec la poker face, si j'ose dire, de Lavrov, que cette promesse, cet engagement serait tenu?
Non, il ne sera pas tenu. Alors je pense qu'il y a deux choses dans ce qu'a dit Antonio Guterres. C'est, je pense qu'il y a un premier aspect, effectivement, les investigations sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de manière très probable aussi, mais peu importe d'une certaine manière, les crimes de génocide. Quand je dis peu importe, c'est pas qu'il ne faut pas les considérer, c'est parce qu'il n'y a pas en droit international de hiérarchie entre ces crimes et que les crimes de guerre en tant que tels sont suffisamment horribles pour qu'ils soient arrêtés. Donc ne banalisons pas les crimes de guerre, hein. Ce n'est pas la guerre comme d'habitude. Bien sûr, il y a des crimes contre l'humanité, vraisemblablement des crimes de génocide, et notamment sur un point, je pense, qui est très important à signaler, c'est notamment la déportation de plus de 500 000 Ukrainiens, et notamment des milliers d'enfants. Et ça, en vertu de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression de crimes de génocide, cela figure de manière totalement explicite. Maintenant, effectivement, sur les couloirs humanitaires, oui, bien sûr, si on peut sauver des civils, il faut le faire. Mais on sait très bien, d'abord, deux choses. D'abord, que ces couloirs humanitaires, ils avaient déjà été bombardés en 2014 en Ukraine. On sait aussi en Syrie, ce qu'ils ont véritablement donné. Et enfin, troisième réflexion. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas penser qu'il puisse y avoir une solution humanitaire à la guerre. Il y a une solution militaire. Et il faut quand même aussi se rappeler cette réalité. C'est-à-dire que l'humanitaire, c'est aussi une manière de se donner bonne conscience et de dire, oh, bon, bah, si on arrive à sauver les civils, bah, tant mieux. Non, je pense qu'il faut faire attention, il faut sauver les civils, tout faire, mais il y a quand même autre chose. À Mariupol, quand même, un point, il faut se rappeler que vous avez plus de 100 000 civils qui sont aujourd'hui là. Okay. Beaucoup sont morts, plus de 25 000 personnes à Mariupol. Beaucoup restent enterrés, privés d'eau, privés de nourriture, privés de soins, etc.
Et sur les couloirs humanitaires, si l'on en croit le renseignement britannique, les Russes prépareraient une attaque sur Zaporijja, cette ville qui accueille justement des réfugiés de Mariupol. C'est tout dire.
Et oui, il y a une grande centrale nucléaire.
Vladimir Poutine a pris la parole cet après-midi, juste après cette conférence de presse avec Sergueï Lavrov et Guterres. Et pas du tout au sujet de ce qui s'est dit, pas du tout au sujet de cette guerre. Il a voulu reparler des Jeux Olympiques de Pékin et dénoncer l'exclusion des athlètes russes.
Les athlètes russes et bélarusses ont été écartés en pleine compétition. Ça a complètement violé les principes fondamentaux, non seulement du grand sport, mais aussi olympique, mais aussi des principes fondamentaux de droits de l'homme, parce que c'est marqué dans la Convention des droits de l'homme de 1948. On ne regarde pas le statut politique et le régime politique des pays que les sportifs représentent. Le sport, c'était toujours à part.
Ça peut paraître complètement anecdotique, à contre-courant cette prise de parole. En réalité, c'est politique.
Déjà, la vocation cynique des droits de l'homme par M. Poutine, oui. On sait quoi en penser, bien sûr. Mais indépendamment de cela, il s'adresse essentiellement à l'opinion publique russe. Il faut savoir qu'il est complètement matraqué par de la propagande, par toutes les chaînes de télévision. Et là, il veut dire, vous voyez, l'Occident est méchant avec nous. Il y a une sorte de russophobie, entre guillemets, qui envahit, les pays occidentaux. Donc, vous avez ce discours-là. Mais qui est un discours, effectivement, qui vise à écarter ce que la population russe, évidemment, ne connaît pas, ou en tout cas ne veut pas connaître, aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire les crimes massifs commis à Mariupol, à Boutcha et ailleurs. C'est ça aussi la réalité, c'est que c'est une sorte d'écran de fumée habituel de la part du pouvoir russe pour cacher la réalité de ce qui se passe en Ukraine et dénoncer effectivement une forme d'agression, alors même dans les détails qui concernent effectivement ces sportifs, de la part de l'Occident. Tout ceci est évidemment totalement, je dirais pas risible, parce que derrière il y a quand même une tragédie, mais absurde, et c'est totalement cynique, bien sûr.
Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Je rappelle la publication que vous dirigez, c'est un bimensuel Desk Russie que vous enseignez à Sciences Po. Vous restez avec nous pour commenter l'actualité française, politique notamment, puisque nous sommes à J plus 2 du deuxième tour. Le président réfléchit à son nouveau gouvernement et même si la terre n'a pas tremblé sous l'Élysée puisqu'Emmanuel Macron a été reconduit, il y a quand même des répliques à cette élection, notamment aujourd'hui chez les Républicains, Émilie.
Rejoindre ou ne pas rejoindre Emmanuel Macron, telle est la question qui hante les Républicains. Question tranchée tout à l'heure par Christian Jacob, le chef des Républicains, à l'issue de leur conseil stratégique.
Si certains, M. Jacob, rejoignent La République En Marche, vous mettrez des candidats face à eux.
Il n'y a pas de double appartenance, c'est-à-dire qu'on est les Républicains, on ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle, on ne peut pas être les Républicains et Reconquête, on ne peut pas être les Républicains et Horizon, on est les Républicains, un groupe indépendant, la double appartenance n'existe pas.
L'indépendance, position qui aurait été adoptée à l'unanimité, à l'exception de deux personnes, l'ancien candidat à la primaire de la droite, Philippe Juvin, et le patron des députés LR, Damien Abad. Pourtant, quand on rembobine quelques heures avant cette intervention, alors arrivé à ce conseil stratégique où Louis Amar et Anaïs Recoulis étaient, on est loin de cette unanimité parfaite.
Vous avez vu et la pression que vous me faites là, je suis contre le mur, reculez, tout va bien.
Comme votre partie, madame.
Non, et pourquoi ? C'est une réflexion de journaliste, ça ?
Il faut de la clarté ou on est mort.
Vous pourriez gouverner avec Emmanuel Macron ?
Gouverner avec Emmanuel Macron ? Moi, je veux que les partis de gouvernement travaillent ensemble.
Et être indépendant, vous ne trouvez pas que c'est bien mieux ? Vous ne trouvez pas qu'on a des choses à dire nous-mêmes, à porter nous-mêmes ?
Si vous pourriez gouverner avec Emmanuel Macron ?
C'est des questions qui méritent un peu plus de temps que simplement comme ça, vous voyez ?
Ça fait 5 ans que je m'oppose à Emmanuel Macron. Et au bout de 5 ans, je lui dis embrassons-nous Folleville parce que je pourrais perdre l'initiative.
Est-ce que vous êtes prêt à une coalition avec Emmanuel Macron ?
Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas une coalition avec nous ? Si c'est pour disparaître, on n'a besoin de personne. Hein.
Qu'est-ce qu'il
faut ? On peut le faire tout seul.
Entre 20 et 30 députés LR seraient en fait à deux doigts de rejoindre la majorité présidentielle. Certains ne s'en cachent pas, comme Daniel Fasquelle, le maire du Touquet, la ville des Macron, et trésorier Les Républicains. Il avait appelé à voter Emmanuel Macron la veille du deuxième tour sur ce document qui, si ça vous avait échappé, reprend exactement la même typo, charte graphique de La République En Marche. Il y a eu aussi le maire de Poissy, Carl Olive, qui avait accueilli Emmanuel Macron au tout début de sa campagne. D'autres ont carrément franchi le pas il y a quelques semaines, quitte à porter un coup à la campagne de la candidate LR Valérie Pécresse. On pense bien sûr à Renaud Muselier, aux côtés d'un autre ex-LR d'ailleurs, Christian Estrosi, tous deux présents au meeting à Marseille. Il y a eu Éric Woerth et Jean-Pierre Raffarin, aperçus au grand meeting de Paris. Et puis on peut aussi citer Nicolas Sarkozy, qui a gardé son silence avant finalement d'appeler à voter Emmanuel Macron. Pour Bruno Le Maire, autre ex-LR qui lui avait franchi le pas dès 2017, rejoindre Emmanuel Macron, ce n'est plus qu'une question d'humilité.
Vous leur dites quoi à ceux qui sont encore chez les Républicains ? Rejoignez-nous définitivement, venez, on est bien au gouvernement.
Il est temps de faire preuve d'humilité, d'honnêteté et de lucidité. Au bout de 5 ans, il devrait quand même avoir compris. Et il devrait avoir l'honnêteté, la lucidité de se dire, dans le fond, notre place est à ses côtés et pas contre lui.
Charlotte Chaffanjon, Dominique Albertini, journaliste au service politique de Libération, auteur à 4 mains de Macron 2, les secrets d'une réélection. C'est à paraître demain aux éditions de l'Archipel. Ça a été fini dimanche soir à quelle heure ?
À 20h01 avec
oui,
les résultats.
Il manquait juste le nom du gagnant.
Donc on n'a pas le champ de Mars alors.
On n'a pas le champ de Mars, non. Peut-être une deuxième version plus tard, je ne sais pas.
Ce livre est l'histoire d'une victoire et d'une défaite, d'un sursis et d'un trépas. La victoire et le sursis, on l'a bien compris, ce sont ceux d'Emmanuel Macron et d'un camp qui lutte contre les extrêmes. La défaite et le trépas, ce sont les qualificatifs que vous attribuez aux Républicains. C'est la mort du parti des héritiers du gaullisme que vous annoncez et ce à quoi on a en partie assisté cet après-midi avec cette question qui divise et qui déchire au sein des Républicains. Franchir le Rubicon, travailler ou pas avec Emmanuel Macron.
Ça commence à y ressembler. C'est pas la mort de la droite, parce qu'en tant que famille d'idées, courant de pensée, elle continue à exister. On dit même qu'elle est plus vivante que jamais. Simplement, elle s'est déplacée. La droite n'est plus dans la droite. Elle est un peu chez Macron, un peu chez Zemmour, encore un peu chez LR. Ce qui disparaît, c'est une tradition politique continue sous différents noms depuis le général de Gaulle et qui permettait de dire que la droite était un parti qui, depuis 2015, s'appelait les Républicains. Et là, c'est un parti qui, au compte-gouttes, au fil de l'eau, se défait un petit peu.
Christian Jacob est très clair, hein, ceux qui entreront au gouvernement seront exclus, ça va suffire à stopper l'hémorragie ou pas ?
Ah non, je ne pense pas. Je pense au contraire que ceux qui décideront d'aller au gouvernement ont déjà tranché leur avenir chez les Républicains.
Symbole d'un parti en difficulté, la campagne de Valérie Pécresse que vous racontez dans ce livre. En décembre, après sa nomination, les sondages sont plutôt bons, mais dès janvier, il baisse. Le 13 février, un meeting doit relancer sa campagne, c'est du moins ce que croit son équipe, que l'on découvre ce soir dans le documentaire Bloc contre Bloc, au cœur de la campagne, qui est diffusé à 21h sur France 5, dans le cadre d'une soirée spéciale de ses politiques.
Le but, c'est que c'est vivant, lumineux et joyeux. Plus elle va avoir d'ambiance à son entrée, plus elle va se sentir bien dans les applaudissements et tout, plus elle va avoir de l'énergie à donner et en fait ça va être réciproque. Il faut savoir que tous ceux qui ont été élus présidents de la République, Macron y compris il y a 5 ans, c'est qu'on voilà, on disait qu'ils n'étaient pas faits pour, ils n'avaient pas les épaules, ils ne savaient pas s'exprimer, ils n'étaient pas charismatiques et puis c'est ça. Et donc il y a eu leur moment d'un grand meeting et derrière ça a décollé pour eux. Et en fait, il faut se dire que vraiment, ça va être un moment déterminant dans la campagne présidentielle. Enfin, on s'en rend pas compte. Hein.
C'est, ouais, ça peut être un tournant,
on s'en rend pas compte, mais c'est quasiment l'avenir de la droite et du centre qui va jouer dans les deux mois.
Rétrospectivement, c'est extrêmement cruel. Parce
mais
qu'il y a
il
n'a
pas tort. Il n'a pas tort. C'est l'avenir de la droite et du centre qui s'est joué effectivement peut-être dans ce meeting-là parce qu'à partir de là, Valérie Pécresse n'a plus jamais réussi à inverser la tendance et à reprendre une dynamique.
De là et un petit peu avant, puisqu'on fait de ce meeting souvent le point de départ de sa descente. En réalité, elle avait commencé depuis le début du mois. Ça n'allait pas très bien. Et je me souviens, les images sont incroyables, mais je retrouve l'ambiance qu'il y avait à droite où on nous disait « Venez au Zénith, vous allez voir, ça va repartir à fond. Il faut vraiment que vous soyez là. » Dans leur tête, c'était vraiment un moment incroyable. Et dès les premières secondes, tout le monde a senti que quelque chose ne marchait pas.
Et ce n'était pas que sur la forme. Hein. Le
non.
fond aussi posait problème.
Ça a été moins remarqué. La forme a écrasé le reste. Mais sur le fond, et ça, ils en convenaient aussi à droite, il y avait un problème dans la confection du discours qui voulait trop dire, qui ne choisissait pas entre tous les sujets à aborder.
Et vous racontez à quel point Nicolas Sarkozy ne ratait jamais aucune occasion de la critiquer, Valérie Pécresse ?
Oui, c'est vrai. Sarkozy, en fait, au fond, a fait le pari que Valérie Pécresse raterait très tôt sa campagne, plutôt qu'elle ne l'a fait. Autour de Pécresse, on s'attendait à ce que, peut-être dès janvier, il fasse connaître sa préférence pour Macron. Finalement, il aura attendu un peu davantage, mais tout au long de la campagne, il aura reçu dans ses bureaux, rue de Miromesnil, tout ce que LR compte de mécontents, pour leur dire à quel point lui aussi trouvait cette campagne ratée. Donc ça a été le poison lent qui a touché la campagne Pécresse.
Emmanuel Macron, en gros, il a accompli la mission qui s'était fixée, c'est-à-dire recomposer de fond en comble le paysage politique français et le faire à la façon des Tontons Flingueurs, qu'il cite d'ailleurs très régulièrement.
Oui, je veux du brutal. C'est un détournement de « c'est du brutal » dans les Tontons Flingueurs. Ça, effectivement, c'est une remarque qu'il fait souvent. C'est quelque chose, en fait, qu'il a entamé dès son passage à l'Élysée version 1, au secrétariat général de l'Élysée, de 2012 à 2014, où lui venait de la gauche et a décidé de commencer par s'en prendre à la gauche. On l'a vu d'abord en quittant l'Élysée pour se préparer dans le dos de François Hollande, puis dans ses premières expressions à Bercy en critiquant un parti socialiste qui mène une politique de fainéant, en expliquant que la gauche a oublié ce que c'était que le travail, etc. C'était vraiment la première pierre à son édifice. Et puis ensuite, une fois élu président de la République, le PS était en très, très, très mauvaise des États, il s'en est pris à la droite. Donc on l'a vu avec un pillage systématique des idées et des thématiques, avec un virage sur sa politique sécuritaire, sur sa politique en matière d'immigration, où il est passé d'une campagne très, très humaniste et très ouverte à une politique beaucoup plus ferme qui lui a été beaucoup reprochée par une partie de la gauche intellectuelle, philosophe, enfin, des philosophes, des écrivains, on l'a vu pendant tout le mandat, et il en a beaucoup souffert de ça, en tout cas il s'est dit beaucoup blessé par ce rapport déchiré à la gauche, mais donc effectivement il a poursuivi cette œuvre sur la droite pour arriver à un LR à moins de 5%. Mais ce qu'on raconte dans le livre et ce que Dominique explique bien, c'est que LR a aussi une capacité d'autodestruction très forte, et il ne faut pas tout attribuer à Emmanuel Macron, qui est très fort pour détruire ce qu'il y a autour de lui, mais qui n'est quand même pas le seul artisan de cette œuvre.
C'est ce que j'allais dire, voilà. À quel point la droite c'est quand même s'aborder toute seule. Et un point important à rappeler quand même, puisqu'on vient de passer le second tour et qu'on s'est perdu dans deux jours de commentaires sur les chiffres finalement 58-42, rappeler que Valérie Pécresse est la candidate qui a obtenu les meilleurs scores de sondage de second tour dans toute l'histoire de cette campagne face à Emmanuel Macron.
C'est la seule. Alors
c'est la seule à avoir... Une fois à 50-50, mais il y a eu des sondages à 51-49,
52. Elle est arrivée une fois dans la foulée de son élection à la primaire LR au mois de décembre, et c'est la seule qui, une fois dans un sondage, a gagné la présidentielle.
Mais Marine Le Pen n'a jamais atteint ce niveau, et aucun autre candidat.
C'était dans la dynamique de la primaire, c'est vrai.
Petite scène dans le doc qu'évoquait ce soir, qui sera diffusé ce soir sur La 5, qu'évoquait Anne-Elisabeth. Emmanuel Macron donc commence sa campagne parce que la gestion du Covid, la guerre de l'Ukraine et la tactique obligent. Il commence sa campagne beaucoup plus tard, et pour présenter son programme, il organise une conférence de presse quelques minutes avant le début de la conférence, pendant qu'on le maquille. Dernier briefing.
Jusqu'à quel horizon ?
Jusqu'à 19h. Si tu fais une heure de propos introductifs et deux heures de questions ensuite, c'est bien.
L'objectif, c'est de prendre combien de questions ?
C'est une bonne trentaine, ça serait génial. Mais ça va dépendre énormément de la longueur de tes réponses. Plus tu fais court, plus on en prend, plus l'exercice que tu voulais faire de confrontation, d'échange et de « j'ai rien à cacher » est réussi. Mais t'es vraiment mettre des horloges là-dessus.
Je ferai une heure et quart, je pense.
Ensuite, le candidat aura beaucoup de rencontres avec les Français à hauteur de baffe, comme on l'avait dit. Vous pensez qu'il va poursuivre encore des rencontres comme ça pendant les législatives ou pas du tout ?
Il va vouloir se montrer et montrer qu'il est impliqué, parce que pour le coup, c'est vraiment indispensable pour lui d'avoir une majorité solide, indiscutable, surtout si, contrairement à ce qu'il avait fait lors de son premier mandat, il a envie d'aller très vite sur des réformes d'ampleur. Je pense notamment à la réforme des retraites qui a quand même été un échec majeur du quinquennat. Du précédent quinquennat, puisqu'il n'a pas du tout mis en œuvre ce qu'il voulait mettre en œuvre. Donc il a besoin d'une majorité solide, il a besoin qu'il n'y ait pas de questions, de doutes. Là, on voit la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts qui discutent, voilà, Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup de bruit, mais au sens positif du terme, pour ses partisans, mais autour de cette idée de le nommer Premier ministre et de provoquer une cohabitation. Donc il va sans doute se montrer. Après, il est important aussi pour lui, tout de suite, de quand même remonter sur son avant-d'un, de rappeler quand même qu'il est président de la République, que c'était bien ces 4 semaines de campagne, mais il y a des sujets quand même très importants. Il sera le 9 mai à Strasbourg pour un discours sur l'Europe. Il y a un sommet européen à la fin du mois de mai aussi auquel il doit participer. La question de la guerre en Ukraine qui se poursuit, peut-être aussi en partie la crise sanitaire qui va revenir un petit peu dans les dossiers. Je ne vous parle même pas de la question du pouvoir d'achat à mettre en place, mais les dossiers quand même sont très importants et très brûlants. Je ne pense pas qu'il passe 2 mois non plus
à faire campagne,
à partir de circonscription en circonscription pour serrer des mains.
Il doit d'abord nommer un Premier ministre ou une Première ministre. Des noms circulent comme Elisabeth Borne ou Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, pour porter, on dit, les grands chantiers politiques. Mais là, on serait loin de l'effet de surprise quand même, on serait loin de l'effet de renouveau qu'il nous a promis.
C'est peut-être ça qui les dissuadera.
Ah oui.
C'est toujours un jeu un petit peu dangereux dans lequel je ne sais pas si on va
rentrer.
On va rentrer, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que ces deux visages-là, ces deux noms ressortent ? C'est qu'ils ont chacun des marqueurs qui, d'après les commentateurs, les rendent désirables pour le président et pour l'opinion. Il y a chez Elisabeth Borne l'origine politique de gauche.
Il y a un Jean Castex version femme.
Ça, je laisse le...
Alors, Honnêtement, moi, je suis nulle au jeu des pronostics. En plus, c'est toujours un peu risqué parce qu'évidemment, ce ne sera jamais ce qu'on dira. En réalité, Elisabeth Borne, là, par contre, ce qu'on peut dire, c'est pourquoi son nom revient beaucoup. C'est parce qu'Emmanuel Macron a tant... Non, mais c'est horrible ce que je vais dire. Mais Emmanuel Macron a tant promis, avant sa première campagne, une femme à Matignon pour marquer l'histoire. Et puis, il a quand même un bilan sur les questions de féminisme extrêmement... Voilà, à discuter. Donc, il y a cette idée, quand même, de quelque part rentrer un peu dans l'histoire de ce point de vue-là et marquer les esprits, ce qui n'enlève rien aux qualités d'Elisabeth Borne, je tiens à le dire. Mais c'est quand même un des critères, malheureusement, qui revient quand on dit Elisabeth Borne, ce serait bien en Macronie, quoi.
À la fin de votre livre, vous vous demandez si le macronisme est là pour durer ou s'il n'aura été qu'une parenthèse. Ça, c'est l'objet du prochain livre dans 5 ans, non ? En tout cas, c'est une parenthèse qui aura duré 10 ans, quoi, au moins. Une
longue parenthèse. Ouais. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'Emmanuel Macron, sauf s'il change la Constitution, ne pourra pas se représenter dans 5 ans. Donc, de toute façon, il lui faudra un successeur, ou alors on reviendra au clivage gauche-droite classique, mais en tout cas, on peut parier que le quinquennat sera marqué d'ores et déjà, et en vérité, ça a déjà commencé par la guerre de succession.
Nicolas Tenzer, vous vouliez réagir sur le score du Rassemblement national, oui, au deuxième tour de cette élection.
D'abord, il faut se rappeler quand même ce que disait Emmanuel Macron en 2017 au Louvre.
Éradiquer le jour,
et qu'il disait qu'il faudrait absolument qu'il n'y ait plus de raison pour que l'électorat français vote pour l'extrême droite et qu'elle soit présente au second tour. Aujourd'hui, nous avons 42%. Je vais comparer, pour revenir un tout petit peu au sujet d'avant, 2% pour l'extrême droite en Ukraine aux dernières élections législatives. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut accepter, d'abord qu'on ait un candidat ou une candidate de l'extrême droite au deuxième tour, et avec 42%, si on prend le total des votes au premier tour, 55%, voire 58% pour des partis anti-système, c'est-à-dire qui sont contre le système tel qu'il existe, je pense que ça, c'est vraiment le motif d'inquiétude le plus profond et le plus durable que nous puissions avoir aujourd'hui.
Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle Macron 2, les secrets d'une réélection, c'est à partir de demain à l'Archipel. C'est signé Charlotte Chaffanjon, Dominique Albertini de Libération. Vous restez avec nous ?
Merci.
Pour le reste de l'actualité, la story de Mohamed Bouabsi. Allez. Merci Monsieur Tenzer.
Merci. Oups, c'est pas grave.
Oh, il y a un petit ballet de Reda, là, magnifique. Oh, il y a une petite confusion, tout ça est très mignon. La marque de pizza Buitoni offre un bon d'achat de 20 euros à des familles d'enfants contaminées par la bactérie E. coli.
Oui, ce mail que vous découvrez à l'écran est arrivé dans la boîte de plusieurs consommateurs de la marque de pizza Buitoni. Un courrier qui démarre par la mention « Bonne nouvelle » et par ces mots « Nous tenons à vous présenter nos excuses pour ce désagrément et en dédommagement, nous vous offrons 20 euros ». Ce désagrément, c'est le rappel de plusieurs produits Buitoni à la suite de la contamination de plusieurs enfants par la bactérie Escherichia coli après avoir consommé une pizza. La fille de Sonia, Mila, a 7 ans, elle a vécu 15 jours d'enfer.
Puis a commencé à se plaindre de maux de ventre, de nausées. Et elle avait 39 lorsque je lui ai pris sa température. Les jours ont suivi et en fait, les douleurs abdominales étaient toujours plus fortes, insupportables. Dans la nuit en fait, du mercredi au jeudi à 3h du matin, ma fille s'est mise à hurler. Elle hurlait de douleur et là on s'est dit non, ce n'est plus possible, on ne va pas attendre de recontacter le médecin traitant. Donc on a décidé de se rendre à l'hôpital de Châtellerault.
53 personnes en France ont été contaminées, dont 52 enfants. Deux sont décédés. Mila, elle, a passé 2 jours à l'hôpital. La fièvre, les vomissements et les maux d'estomac l'ont empêchée de reprendre l'école. C'est pour toutes ces raisons que sa maman, Sonia, est encore choquée par le mail qu'elle a reçu. Le terme désagrément, elle ne l'accepte pas.
Je crois que ça a été le final. On a été choqués, scandalisés. Et puis... encore meurtri, parce que pour eux, avec ce que je lui avais raconté à cette dame de la douleur qu'avait vécue ma fille, subie pendant toutes ces journées sans fin pour nous, ça valait 20 euros pour eux. Et c'est inadmissible pour nous. Je pense que Buitoni doit réagir, doit montrer quand même qu'ils ont un peu d'affect.
Depuis la révélation du scandale Buitoni, les langues se délient. Un ancien salarié de l'usine de Caudry, dans le Nord, qui produit les pizzas, a pris la parole sur RMC. Il dénonce l'insalubrité des locaux.
Quand on voit des champignons au mur, déjà on voit que ça ne va pas. Quand la peinture s'écaille sur les barres en métal, ça ne va pas. C'était des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Par exemple, dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des fois certains, des mégots de cigarettes. Là où la farine est envoyée sur les tapis pour pas que la pâte colle, et ben, y avait des verres de farine qui pouvaient tomber régulièrement. Et la plupart des gens ne se lavaient pas les mains, ou même en revenant des toilettes, ne se lavaient pas les mains.
Depuis quelques jours, les appels de parents affluent au cabinet de Maître Legrand. Il défend une quinzaine de dossiers et résume l'état d'esprit des familles après la réception de ce mail.
Elles attendent donc que la justice fasse son travail, que la procédure avance au plus vite et obtenir réparation de leurs préjudices subis. Elles ont été de plus troublées et choquées par l'envoi de cette proposition de dédommagement. Comment peut-on proposer un bon d'achat de quelques euros à des familles ayant subi de si graves préjudices? C'est insensé, indécent et même offensant. On parle du plus grand scandale sanitaire depuis ces 20 dernières années. Buitoni a en effet failli sur la question des conditions sanitaires. Nous avons tous vu les images de l'usine de Caudry qui a été fermée par décision préfectorale.
Contacté, la marque de pizza nous assure que la personne a reçu des bons d'achat, comme c'est le cas pour les personnes demandant un remboursement de leur pizza suite au rappel massif du 18 mars. Cela n'aurait pas dû être fait et nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à cette consommatrice qui a pu être heurtée par la réception de ce bon d'achat. Nous allons veiller à ce que cela ne se reproduise pas.
Merci beaucoup. Oui, c'est aimable de leur part. Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. L'homme le plus riche du monde, sauf Twitter, pour 44 milliards de dollars.
Oui, on va rappeler d'abord qui est Elon Musk, personnage fantasque s'il en est. Il est de triple nationalité canadienne, américaine et sud-africaine, où il est né dans une famille aisée, multimilliardaire de 50 ans. Vous allez voir que vous connaissez certaines des entreprises qu'il dirige. Il s'est lancé et enrichi en fondant une banque en ligne, X.com, ce qui lui a valu d'être un de ses premiers millionnaires du net. Regardez cette archive de 1999.
Back in 95. There weren't very many people on the internet, and certainly nobody was making any money at all. Most people thought the internet was going to be a fad.
There are 62 McLarens in the world, and I will own one of them.
This is definitely very cool. I like it a lot.
Congratulations.
Just 3 years ago, I was showering at the Y and sleeping on the office floor, and now, obviously, I've got a $1 million car, and
it is a moment in my life.
Très tôt, il rachète la société de paiement en ligne PayPal qui va lui permettre à sa richesse de prendre un nouveau tour au moment de la revente et ce qui va lui permettre de financer ses projets les plus fous, à commencer par la société SpaceX qui produit les fusées Falcon dont certaines sont réutilisables, ce qui réduit considérablement les coûts. Il produit aussi des vaisseaux cargo ravitailleurs pour la Station Spatiale Internationale. S'il est moqué au début du projet, la NASA aujourd'hui se réjouit des services qu'il fournit, mais on perçoit déjà chez Elon Musk le début d'une folie des grandeurs.
What I'm trying to achieve here is to make Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetimes, and that you can go. And is there really a way that anyone could go if they wanted to? I think that's really the important thing. The alternative is to become a space-faring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go.
Rien que ça. Alors, le grand public connaît surtout Elon Musk pour son développement du constructeur auto Tesla. Il mise sur le haut de gamme et le tout électrique. Et ça marche. On le retrouve aussi dans tout un tas d'autres projets de batteries électriques, de projets de trains à très grande vitesse, dans de l'intelligence artificielle, entre autres. Camille Schmitt et Audrey Payas ont interrogé l'expert high-tech Anthony Morel, qui nous décrit l'aventurier de la techno et de la finance.
Un parcours entrepreneurial génial. On ne peut pas lui contester ça. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'il fait tout ça avec une sorte de désinvolture. C'est-à-dire quand on lit sa communication sur Twitter, ses tweets, il est toujours en mode ironique, second degré, humour. Mais derrière, il y a un personnage qui est ultra intelligent, on sent que ça tourne très 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 vite, et qui a un projet qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Quand il dit « je veux faire de l'espèce humaine la première espèce interplanétaire, je veux aller coloniser la planète Mars », quand il dit « je veux connecter le cerveau de l'homme à la machine pour doper votre intelligence », il y a quand même une vraie rationalité et une réflexion très très profonde et très très lointaine.
Alors, il y a un an, Elon Musk se révélait un peu plus. À ceux qui lui parlent de génie, il répond qu'il est atteint d'autisme, du syndrome d'Asperger, sauf qu'il le fait dans une émission de divertissement américaine.
It's an honor to be hosting Saturday Night Live. I mean that. Sometimes after I say something, I have to say I mean that. So people really know that I mean it.
I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Or at least the first to admit it. Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say, I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship.
C'est donc ce personnage atypique qui prend le contrôle du réseau social Twitter.
Pour la modique somme de 44 milliards de dollars, vous l'avez dit, parce qu'il peut se le permettre déjà. Nous avons réalisé cette petite animation de son ascension des derniers mois, entre autres géants de la Silicon Valley. Vous reconnaîtrez les patrons de Facebook, d'Amazon, de Microsoft. La richesse d'Elon Musk évaluée à plus de 278 milliards de dollars, bien sûr. Ça compte aussi effectivement ses participations. Et en même temps, un côté punk, anarchiste du business, milliardaire qui fume des pétards à la radio, un côté agaçant aussi, parfois un peu conventionnel en tout cas pour le moins, comme lorsqu'il tweete que Tesla, son entreprise, est surévaluée en bourse. Vous voyez ce petit porteur qui commente « Mec, tu viens de me faire perdre 10 000 dollars ». Le gendarme de la bourse, il faut le savoir, l'accusera de manipuler les cours pour plusieurs tweets et il devra alors renoncer à la présidence de Tesla. On retrouve ensuite Elon Musk en soutien des camionneurs canadiens, vous vous souvenez, qui manifestaient contre les règles sanitaires il y a quelques semaines. On le retrouve aussi en soutien des Ukrainiens avec son service de Wi-Fi par satellite. Alors, est-ce qu'Elon Musk rachète Twitter à des fins politiques pour peser, pour influencer? Il promet moins de modération en ligne, plus de liberté pour les internautes, ce qui reprend exactement le vœu des républicains américains les plus durs, les plus proches de Donald Trump, les plus complotistes aussi. Il promet également de rendre les algorithmes publics. Anaïs Recouli a posé la question à Olivier Lascar, c'est l'auteur d'une enquête sur Elon Musk. Quel enjeu politique derrière ce rachat de Twitter?
Avec Twitter, il se retrouve aux mains d'un instrument d'influence. Ça peut alimenter un projet d'ordre politique qui est ce projet d'être un homme d'influence, une sorte de Citizen Kane du 21e siècle où les journaux ont laissé la place au numérique. Et grâce à Twitter, il devient vraiment l'homme qui murmure à l'oreille des décideurs, quoi. Dans le projet de Musk, il y a effectivement d'abolir toute forme de modération. Or, c'est un lieu où la haine s'épanche assez volontiers. Si on va en marche arrière, les conséquences pour les usagers risquent d'être plus dramatiques que bénéfiques, à mon avis.
Voilà pour ce portrait complet d'Elon Musk. On quitte les États-Unis pour la Chine.
Où c'est toujours la stratégie zéro Covid qui fait l'actualité. Alors, on vous a déjà raconté le confinement de Shanghai, 25 millions d'habitants enfermés depuis le début du mois. Face à un rebond épidémique, la ville de Pékin veut dépister la quasi-totalité de ses 22 millions d'habitants. Ce sont une centaine de cas positifs qui ont été recensés dans la capitale chinoise. Et si les autorités affirment que la situation est sous contrôle, les habitants de Pékin craignent de se retrouver dans la situation de Shanghai. Alors, ils prennent d'assaut les supermarchés.
We're panicking a bit. It's impossible not to panic.
I'm buying lots of eggs. We can't if we're locked down.
Bonsoir Marina Carrère-Dancos, médecin, journaliste, animatrice de télévision. Les téléspectateurs, évidemment, vous connaissent pour le magazine de la santé, du lundi au vendredi à 13h40 sur France 5 en direct. Ces images de Chine, ça veut dire qu'à tout moment, on peut connaître, y compris évidemment en France, de nouveaux rebonds épidémiques?
C'est bien qu'on, depuis le début de cette crise, on dit qu'on ne sait pas. Mais honnêtement, en fait, là, c'est une situation qui est quand même très particulière. Les Chinois n'ont pas voulu vacciner leur population comme nous, on l'a fait, puisqu'ils attendaient un vaccin chinois et pas les vaccins ARN dont on a bénéficié, nous. Ce qui fait que leur taux de vaccination est beaucoup plus faible que le nôtre, et notamment les personnes les plus fragiles. Et que ce rebond d'épidémie, nous, on l'a connu avec ce variant. Il n'y avait pas de problème. Et malgré tout, on enlève le masque et on devient libre, tout simplement parce que notre population est très vaccinée, ce qui n'empêche pas, on le sait, la contamination, mais ce qui empêche les formes graves et les hospitalisation. Et là, ils sont face à une population qui est peu vaccinée et un variant extrêmement contaminant.
Il faut bien entendre effectivement ce point sur la vaccination. Il y a une autre question qui est posée par ces images en provenance de Chine, c'est leur stratégie zéro Covid. Est-ce qu'au final, l'idée de tout fermer très très vite, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait ses preuves?
Le problème, c'est qu'ils sont face à une population peu vaccinée. On n'envisage pas ça aujourd'hui dans nos pays à nous.
Et on ne connaît pas la qualité du vaccin chinois.
Exactement, on ne connaît pas. Et les chiffres donnés sur le nombre de personnes, notamment fragiles et les plus âgées, qui sont vaccinées,
sont aussi à vérifier. Donc effectivement, ils sont face à une situation qui est quand même assez angoissante pour eux.
Oui, la stratégie zéro Covid, elle est imposée par la faiblesse de la vaccination de leur population. Autre question santé, Mathieu, liée au Covid également.
C'est Santé publique France qui publie aujourd'hui les résultats d'une étude qui porte sur les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Au cours des deux dernières années, la proportion d'enfants obèses a quasiment doublé. Marina Carrère-Dancos, on ne sait pas si c'est l'alimentation, c'est ce que dit l'étude, hein, si c'est l'alimentation qui s'est dégradée avec une hausse des grignotages notamment, ou si c'est la réduction des activités pendant les phases de confinement. Alors, les deux docteurs ?
Ça sera affiné, c'est possiblement les deux. Je pense que comme les enfants sont quand même très petits, bien sûr, ils ont eu plus de tablettes, mais des enfants de 4-5 ans, ça bouge de toute façon. Même si c'est enfermé chez soi, ça bouge, ce n'est pas des adolescents. Donc ça aura une part, mais à mon avis, pas la plus importante. L'alimentation, très certainement. Et ce n'est pas que le grignotage. Hein. Les enfants qui ne vont plus à l'école, ils ne vont plus à la cantine. Depuis plusieurs années maintenant, on donne à la cantine des repas qui sont extrêmement équilibrés. On essaie de donner des fruits, des légumes, donc des aliments bons pour la santé à chaque repas à la cantine. Et dans les familles les plus précaires, ça sera intéressant d'affiner aussi sociologiquement cette étude, dans les familles les plus précaires, ils comptaient beaucoup sur le repas à la cantine pour que les enfants aient un repas sain dans la journée. Donc il est probable que les enfants aient eu deux repas peu sains, parce que bien manger, ça coûte cher. Et dans les familles les plus précaires, ça a dû jouer.
Alors, effectivement, Santé publique France le précise. Dans l'étude, on comprend que les filles sont plus touchées que les garçons, mais ça, on n'a pas l'air de trop l'expliquer encore. Et les enfants qui ne vont pas à la cantine en particulier, ceux qui vivent en zone d'éducation prioritaire, plus sévèrement.
Ça a joué, très clairement.
On termine ce 5 sur 5 avec la nouvelle doyenne de l'humanité.
Lucille Randon, elle est née en 1904, la même année que Jean Gabin ou Salvador Dali. Elle a connu les deux guerres mondiales.
18 présidents.
18 présidents, oui, j'ai arrêté les comptes.
Ah oui.
Et aussi des comptes de premier ministre que j'ai plus en tête. C'est en 1945 qu'elle se convertit au catholicisme, elle était protestante. Elle entre alors dans les ordres et on l'appelle Sœur André depuis. Elle a 118 ans et elle commence à trouver le temps long.
C'est un triste honneur, parce que j'aime pas les parades. Je sens que je serai mieux au ciel et que le bon Dieu ne me veut pas. J'en suis pas fière, mais pour ma famille, j'en suis heureuse, parce que ma famille m'a dorlotée.
Alors, dans l'EHPAD où elle réside, on dit que son secret de longévité, c'est, je cite, « l'eau qui pique ». Et un verre de vin à midi. Ce sont de bons conseils, Marina Carrère-Dancos.
Si je dis que c'est de bons conseils, on va me tomber dessus en disant que non, on devrait dire qu'il faut être beaucoup plus sobre que ça. Mais apparemment, ça lui réussit. Et quand on cherche les secrets des centenaires, il y en a beaucoup quand même qui ont profité de la vie, d'autres qui ont été très, très ascètes. On n'a pas trouvé de point commun pour l'instant.
Et Jeanne Calment avait un petit.
Verre de Porto, tous les
jours. Verre de Porto, c'est ça. 122. 4 ans de plus, encore 4 ans.
Mais Sœur André veut battre le record de Jeanne Calment, c'est son objectif, c'est ce qu'elle confiait.
Elle a toute sa tête, Sœur André, elle a simplement perdu la vue et la mobilité à 118 ans, je pense qu'on peut le comprendre, mais quand on l'entend en interview, elle est tout à fait claire. 118 ans.
On sera tous.
Je sais pas si ça fait rêver.
Nous, on ne sera pas centenaires, mais nos enfants probablement.
Je ne suis pas sûre que je leur souhaite.
Ah ouais?
Honnêtement, je sais pas, c'est énorme quand même. Parce qu'on ne vieillira pas tous en pleine forme, au-delà de 110 ans, ce n'est pas possible. L'organisme n'est pas fait pour ça.
Qu'est-ce qu'on dira? Elle a connu deux guerres mondiales, elle a connu un confinement.
Pardon?
Un doigt de Porto, je peux encore.
tu veux le mien?
Cette émission. On ne sait pas très bien comment qualifier ce geste, Patrick.
Ambigu.
Oh, mais oui. Macron 2, les secrets d'une réélection. Et oui, Charlotte. C'est un humour jeune qu'on pratique surtout autour de cette table. Les secrets d'une réélection, c'est à paraître demain. Merci beaucoup, Dominique Albertini, Charlotte Chapangeau, d'être venue ce soir. Marina. On reste avec vous parce qu'il faut en finir avec les blagues graveleuses de Patrick Cohen, mais aussi avec les troubles du sommeil, avec le sucre et avec les troubles digestifs. Ça concerne 2-3 personnes autour de cette table. Ce sont des questions qui sont inspirées par les téléspectateurs de votre émission. On y revient longuement. Beaucoup de conseils du médecin Marina Carrère-Dancos à suivre. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous et les actualités de Bertrand. On vous attend.